7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue. 7 milliards de voisins. À quelques semaines de la COP21, je reçois trois architectes africains pour regarder les villes en face et pour qu'ils nous racontent comment ils aimeraient construire pour le continent. En finir peut-être avec des immeubles exposés plein sud, otages de la climatisation. En finir peut-être avec les problèmes de transport. En finir peut-être avec l'étalement sans fin des quartiers. Bref, quel avenir pour les villes africaines? Pour en parler dans le studio de RFI, Thierry Dogbo, architecte à Abidjan. Bonjour Thierry Dogbo.
Bonjour Emmanuel.
Vous aimez vous présenter un peu comme un architecte hyper polyvalent, non? Je sais.
Oui, tout à fait.
Ça serait quoi la formule qui vous définirait?
Ah, j'ose pas la dire ici, mais...
Pourquoi on peut tout dire ici.
On peut tout dire ici.
Oui.
Allez, comme je disais souvent, des toilettes au gratte-ciel.
Des toilettes au gratte-ciel, ça vous résume. Ça résume aussi l'architecte africain, vous pensez?
Oui, assez quand même. Parce qu'on est confronté à cette problématique, voilà. Tout le temps.
Il n'y a pas de petit sujet en Afrique, en architecture. Éric Moreau également avec nous, architecte à Libreville. Bonjour.
Bonjour.
Une capitale qui a longtemps ressemblé à une petite ville de province, qui est toujours d'ailleurs une petite ville, hein, moins d'un million d'habitants, si je ne me trompe pas.
Libreville est une ville qui avoisine aujourd'hui à peu près 1,5 million d'habitants, et en fait qui continue effectivement à s'étaler, et qui est quand même assez. Voilà, elle n'est plus petite.
Ouais, pleine transformation en tout cas.
En pleine mutation.
Et puis également dans le studio de RFI, j'espère dans quelques instants, il est en retard, il est dans les embouteillages à Paris, Virgin Claude Djinga, qui est architecte et ingénieur à Yaoundé, la ville aux sept collines. Et bien sûr, vous avez tous les trois vos propres bureaux d'études. Et quant à vous, les voisins, que pensez-vous de votre ville? Si vous voyagez un petit peu sur le continent africain, quelle est selon vous la ville africaine la plus réussie, je veux dire par son urbanisme, par sa qualité de vie, par son dynamisme? Nous attendons votre palmarès des villes du continent, les voisins. Votre point de vue nous intéresse et intéresse surtout les autres voisins. Appelez-nous dès maintenant, le standard est ouvert, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71. Vous nous laissez juste un numéro de téléphone et nous vous rappelons immédiatement. Et bien sûr, vous écrivez, vous continuez d'écrire sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, hashtag 7 milliards. Je vous lis quelques messages postés sur le fil Facebook. Abdoul à Ouagadougou, qui est au Burkina, il nous dit: en Afrique, on ne prend pas en compte le futur lorsque l'on construit. Clovis, qui est à Yaoundé: une ville réussie pour moi, c'est une ville durable. Sur le continent africain, on n'en trouve presque pas, car on assiste à ce qu'on appelle une urbanisation de rattrapage. Les villes ont été conçues sans aucun plan au préalable. Je vous cite aussi le message de Souni qui est à N'Djamena. Le métier d'architecte est trop oublié en Afrique. Ce sont les ingénieurs les plus sollicités. Ce métier a-t-il vraiment un avenir en Afrique? Au Tchad, eh bien, ce sont les habitants eux-mêmes qui tracent, qui planifient, qui construisent leurs habitations sans consulter les architectes. Est-ce que les architectes en Afrique travaillent uniquement avec les gouvernements et les plus riches? Bon, bah, déjà, première réponse à tous ces messages postés par les voisins. Thierry Dogbo?
Oui, je me lance. C'est très marrant parce qu'on aurait dit que les voisins ont lu dans nos têtes, parce que tous les sujets...
Certains sont peut-être architectes comme vous.
Certains sont peut-être architectes, mais tous les sujets qu'ils évoquent sont les sujets qui nous taraudent tout le temps de notre métier, sans arrêt.
Et bon, est-ce que vous travaillez avec les gouvernements et avec les plus riches?
Moi, personnellement, non, je ne travaille pas avec les gouvernements.
Ah, vous travaillez avec ceux qui peuvent vous payer,
je
déjà.
Je travaille avec ceux qui peuvent me payer, qui ne sont pas obligatoirement les plus riches, parce que l'architecture, ça s'adresse à tout le monde, pas uniquement aux riches. Et il n'est pas évident que les plus riches soient obligatoirement les meilleurs clients non plus.
Éric Moreau, vous, qu'est-ce que vous répondez?
D'abord, je vais dire là-dessus que les populations, depuis un moment donné, en fait, sont nourries de beaucoup d'appréhensions, ou alors ce sont également les gouvernants ou des personnes qui sont opposées peut-être à la problématique de la profession d'architecte, généralement qui véhiculent tout un ensemble de choses ou de peurs ou de craintes, amenant des populations aujourd'hui de plus en plus à parfois avoir peur d'aller vers l'architecte et d'aller comprendre.
Peur de la facture surtout.
Souvent peur de la facture. Alors évidemment, quand je me suis installé au Gabon, j'ai commencé à avoir une phrase leitmotiv un peu qui est celle de mon agence d'architecture où je dis répondre au service de l'excellence et du plus grand nombre. Parce qu'effectivement, je voulais déjà faire tomber cette espèce de mur que les populations ont. Mmh. Rien que pour vous aborder, elles ont déjà peur. Mmh. Voilà. Et à la limite, elles ne vous abordent pas, elles ne vous indiquent pas leur projet et se retrouvent donc confrontées à une difficulté de même exprimer leurs besoins. Parce que simplement, on leur a dit, l'architecte coûte cher. Et quand un comme moi, par exemple, j'ai eu le malheur, entre guillemets, de rencontrer évidemment les grandes personnalités, on pense qu'évidemment, Moreau n'est qu'avec les grandes personnalités. Effectivement, bon, ça donne à avoir
les
peur.
Les voisins, certainement. En tout cas, vous pouvez bien sûr commenter le travail des architectes dans les villes africaines. Et puis surtout, appelez-nous pour nous parler de ce que vous voyez, de ce que vous vivez dans votre ville au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez dialoguer avec des architectes africains de passage à Paris pour le salon Batimat, qui est un salon réservé aux professionnels de la construction. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Vous vivez donc tous les deux, vous travaillez, vous vivez sur le continent africain. Le continent africain qui va connaître la plus forte croissance urbaine de la planète. Alors à quoi servent les architectes finalement? À quoi vous servez dans cette urgence à la fois démographique et climatique, tous les deux? Thierry Dogbo.
On sert de régulateur avant tout par rapport à cette urgence du moment. Mais il y a quelque chose sur laquelle il faudrait que je revienne par rapport à nos gouvernants et à la problématique qu'a évoqué l'auditeur tout à l'heure pour savoir si on a besoin d'architectes encore en Afrique. Oui, on a besoin d'architectes, c'est un métier qui est merveilleux, qui est mal connu. C'est pour ça qu'on a des problèmes de comment on va dire, on parle de prix, on parle de l'architecte qui est cher, mais on ne connaît pas son métier. On a une petite part de responsabilité, c'est qu'on ne s'exprime pas assez non plus, malgré tout, mais on n'est pas tellement aidé par nos gouvernants non plus, qui, d'une manière générale, en Afrique, ne sont pas des bâtisseurs, voilà. Et donc, si ce problème d'éducation, d'abord, par rapport à notre métier, pour le faire connaître, pour savoir qu'est-ce que fait l'architecte? Quel est son rôle dans...
Là, déjà, quand vous êtes arrivé dans le studio de RFI, alors vous avez démonté le plafond, vous avez tout décortiqué, vous avez touché les panneaux, le poly, vous avez dit, ah, c'est du polystyrène, c'est comme ça, derrière, ils ont mis ça, enfin bon.
Bon, ça vous
prouve... avez scanné le studio, quoi.
Voilà, ça vous prouve bien que vraiment, c'est un métier qu'on fait et que, bon, que le peuple, enfin, le lambda ne connaît pas vraiment. Donc, on a ce problème à résoudre d'abord, qui est un problème d'éducation vers la population, savoir qu'est-ce que c'est notre métier pour pouvoir commencer à dire c'est cher.
Mais alors, quel est votre regard à tous les deux, là je m'adresse à vous Éric Moreau, sur l'urgence démographique et climatique? On est à quelques semaines de la COP21 et tout le monde prédit, c'est déjà en route. Vos villes, celles d'ailleurs qui ont moins de 3 millions d'habitants, sont celles qui vont connaître la plus forte croissance dans les années à venir.
Nous avons, ce que je peux dire, l'ensemble de ces problématiques doit être d'abord penser de manière globale. Agir dans l'urgence pour solutionner des problèmes est toujours mauvais. La science ou les techniques qu'utilisent les architectes sont des techniques humaines, sont des approches, sont de bien vivre dans un environnement, sont de penser l'environnement dans des espaces et dans un environnement intelligent. La place de l'architecte, évidemment, par rapport à la problématique de la climatologie aujourd'hui, l'augmentation de la chaleur et de la détérioration de la couche d'ozone, toutes ces problématiques, évidemment, ce sont des problèmes des architectes également.
Ce sont déjà des problèmes et que vous avez à solutionner
alors
quand vous travaillez sur...
Vous savez, ça date depuis 20 ans. Pour ce qui me concerne, par exemple, j'ai travaillé avec des gens de la commission UNESCO il y a 20 ans, étant étudiant. On parlait déjà depuis longtemps de la problématique, justement, de la nécessité d'apporter une autre façon de concevoir, que ce soit la domotique, que ce soit l'utilisation de l'éolienne, que ce soit le vent, que ce soit la chaleur, que ce soit le soleil, de voir comment on les appliquait et comment ça pouvait apporter aujourd'hui des améliorations en termes de mise en œuvre des projets.
Ouais.
Et bien sûr, dès lors que toutes ces sciences et ces techniques par les architectes sont maîtrisées, voir comment on les pousse à être acceptés par des pouvoirs, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, la problématique, elle est la même. Je suis l'architecte.
Si ce n'est que vous avez, dans vos villes, vous avez tendance à manquer d'énergie, vous manquez d'électricité, pas partout non plus, certaines villes manquent d'eau. Thierry Dogbo, vous avez déclaré dans Jeune Afrique, les folies climatisées des années 80-90 à Abidjan sont derrière nous. Est-ce que c'est vrai?
Elles sont presque derrière nous parce qu'il y a eu quand même une conscience des architectes par rapport à la circulation de l'air, à la conception de tous les bâtiments existants pour essayer de les orienter d'une manière à ce qu'ils soient ventilés naturellement.
Aujourd'hui, que vous savez construire dans des villes avec ce que vous demandent les clients, ce que vous demandent les bailleurs de fonds, est-ce que vous savez construire des bâtiments importants sans climatisation?
C'est pas possible. C'est comme si on demandait de construire en France un bâtiment sans chauffage. De toute façon, on est confronté au problème de la climatisation. Le problème, c'est de pouvoir la réduire et de l'utiliser le moins possible en essayant le maximum de protéger nos façades du soleil. En Afrique, de manière générale, qu'on soit au sud, au nord, à l'ouest ou à l'est, on doit protéger nos façades du soleil. Donc on va avoir des toitures débordantes ou des balcons débordants afin d'éviter le maximum d'ensoleillement et d'utiliser le moins possible la climatisation. Alors, par rapport à la climatisation elle-même, c'est d'utiliser des systèmes qui vont être de plus en plus économiques et de plus en plus passer à un mode intelligent et pouvoir la gérer soi-même en fonction de son utilisation. Mais on ne pourra pas se détacher de la climatisation comme ça.
Vous nous appelez, les voisins, les voisines, pour dialoguer avec des architectes sur le continent africain, pour parler de vos villes au 33 1 84 22 71 71 avec tous les défis démographiques, climatiques. Nous accueillons un voisin qui nous appelle, justement de Libreville. Bonjour Achille.
Oui, bonjour.
Vous avez 36 ans, vous êtes un jeune architecte congolais à Libreville.
Oui.
Oui, on vous écoute.
Ben écoutez, moi je voudrais aborder les mêmes sur le sujet. C'est-à-dire que nos villes africaines, on a effectivement tendance à effacer tout ce qui appartient à l'époque coloniale. Et je vais d'ailleurs aborder dans les sujets comme les architectes qui sont sur le plateau, du point de vue climatique par exemple, ces maisons de l'époque coloniale étaient des maisons conçues sans split, sans climatisation, et c'est des maisons qui étaient tropicalisées. Donc, actuellement, au nom de la modernité, on a tendance à raser toutes ces maisons et à faire des tours, et il n'y a aucune disposition pour gérer les patrimoines colonial.
Vous pensez à quelle ville, quand vous parlez d'un patrimoine colonial qui serait détruit au profit de la modernité, et pas dans le bon sens du terme, semble-t-il, selon vous, Achille? Vous pensez à quelle ville?
Par exemple, la ville de Kinshasa. C'est une ville où les Belges ont conçu des villas, des immeubles, qui, déjà vers les années 50-60, où les gens ont utilisé pas la climatisation, c'est des maisons qui étaient très bien aérées, où on n'avait pas besoin d'une technologie compliquée. Donc actuellement, on les rase et à la place, on construit des tours. Donc moi, je pense que pour avoir une belle ville africaine, il faut essayer de gérer les patrimoines passés et planifier l'avenir. Donc je pense qu'il y a moyen de concilier les méthodes de construction traditionnelles et aussi planifier
Gérer le passé et planifier l'avenir, c'est une bonne formule. Merci Achille de nous avoir appelé. Éric Moreau.
Oui, je pense que la problématique que soulève Achille est celle surtout de la conservation et également la nécessité évidemment de se projeter aussi dans la modernité. Mais l'un, évidemment, n'est pas obligé d'effacer l'autre. Mais la façon dont est fait certaines opérations dans nos pays, évidemment,
les
on a l'impression...
Les opérations avant tout financières, il faut le rappeler.
Elles sont souvent financières.
Vous êtes au cœur de tractations financières énormes.
Cette problématique, en fait, c'est juste ce qu'il dit. Maintenant, beaucoup de personnes, évidemment, ne comprennent pas aussi, d'abord, que l'architecture et l'urbanisme, c'est d'abord une vision aussi globale qui a des contingences économiques et parfois un certain nombre de choses peuvent passer comme ça à perte et profit, mais sachant très bien qu'effectivement les villas à l'époque on construisait bien vrai qu'elles avaient évidemment des hauteurs sous plafond très très importantes et ça permettait de pouvoir avoir à l'intérieur une bonne ambiance, qu'on n'avait pas besoin de climatisation mais il faisait quand même chaud, mais c'était simplement ventilé. Mais qu'aujourd'hui, avec l'amélioration de l'air, on veut souvent aujourd'hui un air qui est quand même un peu plus filtré avec...
Je veux dire qu'on est donc trop exigeant.
Mais oui,
plus c'est
les exigences aujourd'hui de la modernité, des technologies modernes ont amené à transformer justement des architectures, si bien qu'on ne peut plus forcément avoir encore les mêmes plafonds hauts, mais aujourd'hui on a des constructions architecturales qui sont aujourd'hui de très bonne facture et qui permettent aujourd'hui aux populations évidemment d'améliorer. Le rôle de l'architecte, c'est d'améliorer toujours les conditions d'habitation et de travail de tout le monde.
Je voudrais qu'on accueille une voisine qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Fatou.
Oui, bonjour Emmanuel.
Fatou, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Ça, je redonne le numéro de téléphone pour ceux qui veulent participer au débat sur les villes africaines. Vous voulez pousser un coup de gueule contre les architectes africains dans les villes africaines.
Voilà.
Allez-y, voilà, vous êtes en direct chez 7 milliards.
Voilà. Bon, moi j'habite à Abidjan. C'est une belle ville qui est en pleine promotion, on fait des constructions, etc. Mais ce n'est pas une ville africaine dans son look, dans ce qu'on voit. C'est une ville très moderne, c'est petit Paris, comme on disait. Moi, je voudrais que nos architectes africains pensent un peu à africaniser nos villes. C'est-à-dire à les rendre... C'est-à-dire que quand les touristes arrivent, ah oui, ah c'est joli, ah c'est l'Afrique, ah c'est différent. Et non pas, ah oui, c'est moderne, ça ressemble à New York, ça ressemble à Washington, etc. Qu'est-ce que nos architectes font pour garder notre originalité? On a parlé tout à l'heure de l'architecture coloniale, etc.
Thierry Dogbo, qui est architecte à Abidjan, veut intervenir.
Pour que vous précisiez votre question... Que vous pourrez me donner, juste qu'est-ce que vous appelez une ville africaine?
Alors là, il nous faut peut-être 4 ou 5 heures.
C'est-à-dire ce qui ressemble dans son architecture, par exemple, où il y aurait des cases modernes, des arbres, beaucoup d'arbres africains. On rase tous les cocotiers, tous les palmiers, on fait des blocs, des boîtes d'allumettes, c'est affreux, c'est horrible. Ça ne ressemble pas à l'Afrique. Quand vous allez dans un pays asiatique, vous voyez les pagodes, etc., vous savez que vous êtes en Asie. Vous allez en Russie, c'est pareil. Vous allez dans les villes européennes, ce sont des villes européennes, dans les petits villages européens. Chacun est fier de sa tradition, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous avons enlevé toutes nos cases.
Oui, Fatou, je vais essayer de vous répondre. Ça va rejoindre un petit peu la réponse que je voulais donner à Achille par rapport à l'architecture coloniale. Alors, il y a deux problématiques. Un, il y a la modernisation de la ville qui fait que des fois, il y a des problèmes fonciers qui font qu'on va raser ces maisons coloniales. Ça, c'est le premier point qui peut arriver. Même si on peut, sur certains endroits, les conserver, comme à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a Bassam qui est maintenant protégé par l'UNESCO. Donc, on a un patrimoine, une architecture coloniale qui va être préservée. Deuxièmement, par rapport à ces maisons qui étaient faites à l'époque dans un environnement particulier.
C'était pas une architecture africaine. Enfin, l'architecture
coloniale n'était
pas une architecture africaine.
Non, c'était pas une architecture, africaine, mais en tout cas, elle a pris en compte les problématiques d'un climat africain. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport?
Je
vais finir. On était dans un environnement où on avait une urbanisation qui était moins développée, donc il y avait moins de logements, il y avait plus d'arbres, donc ça permettait de créer un environnement qui était toujours frais parce qu'il y avait plus de végétation. De nos jours, ces habitations sont à côté.
Non, mais dans le fond, vous quand même, faut reconnaître que Fatou a en partie raison, non?
Non, mais je vais y arriver.
Je vais vous donner une position.
La ville africaine, après a évolué et sous la pression foncière, bien évidemment, il y a des cases qui ont été détruites. Qu'est-ce qu'on va appeler une ville africaine? Ça va être une ville qui est d'abord verte, qui va respecter son environnement climatique, qui va atténuer au maximum la chaleur, mais ça va pas être une ville qui va être obligatoirement avoir une architecture de cases. On n'a pas de musée qui nous montre cette architecture vernaculaire qui existait. Donc il y a un problème de représentation là-dedans.
On va rendre l'antenne pour le flash si vous le voulez bien, messieurs les architectes. Fatou, vous restez en ligne avec nous parce que je sens que vous voulez absolument découdre avec les architectes en Afrique et le concept de ville africaine. Qu'est-ce que c'est? Vous posez une bonne question. Qu'est-ce qu'une ville africaine? Vous restez avec nous. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Et bien sûr, les voisins, vous continuez de nous appeler et les voisines. Quelle est, selon vous, la ville la plus réussie en Afrique en termes d'urbanisme, de qualité de vie, de dynamisme? Un seul numéro de téléphone pour toutes ces réponses. 33 1 84 22 71 71, 7 milliards de voisins. Retour dans 3 minutes sur RFI, bien sûr.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, à quelques semaines de la COP21, des architectes africains regardent les villes en face sur le continent et débattent bien sûr avec vous les voisins et les voisines. Thierry Dogbo, architecte à Abidjan, Éric Moreau, architecte à Libreville. On attend toujours Virgin-Claude Djingadjiga qui est architecte à Yaoundé au Cameroun et qui est prisonnier des embouteillages de la capitale française. Et quant à vous les voisins, vous nous appelez pour nous parler peut-être de votre ville ou de la ville que vous estimez être la plus réussie sur le continent africain, au 33 1 84 22 71 71. En fin d'émission, je donnerai le palmarès cité par nos voisins concernant les villes africaines. Je voudrais qu'on redonne la parole à Fatou, qui est une voisine qui nous appelait d'Abidjan il y a quelques minutes, juste avant le flash, et qui se disait, pourquoi donc est-ce que nos villes sur le continent ne ressemblent pas à des villes africaines, sous-entendant que vous en êtes les responsables, vous les architectes, messieurs. Fatou, est-ce que vous voulez rebondir sur les réponses de nos amis architectes?
Oui, je n'ai pas vraiment entendu de réponse qui me convainc. Ce que je voudrais dire, c'est que peut-être qu'il faudrait demander aux promoteurs immobiliers qui pullulent en Côte d'Ivoire, qui se font beaucoup d'argent, de faire un effort pour que nos villes, nos quartiers soient un peu plus africains. Moi, je ne suis pas architecte, je pense qu'on peut trouver des astuces pour que ça ressemble à l'Afrique. Qu'on nous replante nos cocotiers, nos palmiers, etc. Dans ton rase, on peut planter en bordure, etc. Que ça soit joli. Ouais. Et que les touristes viennent regarder à une belle ville africaine et non pas à un petit Paris.
Fatou, je suis Éric Moreau. Je pense que ce que tu dis en fait est une, tu soulèves en fait une problématique d'une volonté d'avoir un environnement qui ressemble et qui prenne en compte en fait ta culture, qui prenne en compte la culture de certaines villes, de chacun de nous, ainsi de suite. En fait, la ville, il n'existe pas. Et je voudrais qu'en fait on s'accorde d'abord sur les terminologies. Il n'existe pas aujourd'hui. On peut pas dire une ville peut-être aujourd'hui africaine ou européenne ou américaine. Le monde aujourd'hui, l'architecture est une, c'est un peu comme on dit la médecine. Il n'y a pas une médecine d'Afrique ou une médecine d'Europe, une médecine.
C'est,
on dit la médecine.
Non,
un point
c'est pas
après.
Pareil, c'est pas pareil.
Non. Mais il faut te dire, c'est ça aujourd'hui en fait dans le monde, parce que la culture évidemment, elle est. Faut pas confondre la culture.
Pour être sur des
culture.
Points concrets, Fatou, vous maintenant, trouvez par exemple qu'il n'y a pas assez d'espace vert à Abidjan. Honnêtement, à Abidjan, il y a encore beaucoup d'espace d'ailleurs non construit autour de la lagune, ne serait-ce que près du campus, par exemple, avec énormément d'espace vert. D'ailleurs, une végétation qui est laissée. Je veux dire, mais elle-même. Hein,
Fatou a mis,
si on compare par rapport à Dakar où il y a que du béton.
Bien sûr. Mais Fatou a mis le doigt sur un point qui est très important par rapport aux promoteurs immobiliers. Qui, de manière générale, bon, ils vont peut-être m'en vouloir. Je ne pense pas qu'ils construisent avec des architectes pour pouvoir réaliser leurs opérations, parce que ce sont des opérations sans vouloir.
Sous-entendu des trucs aussi moches, c'est ça? Vous voulez dire parce qu'il n'y a pas d'architecte?
Oui, parce que on est toujours confronté à ça. Beaucoup de gens qui achètent des opérations immobilières viennent voir des architectes après
pour les
modifier. Et ça leur revient encore plus.
Ils vous disent quoi? Ils vous disent ça nous plaît
mais
pas, c'est moche.
Ils vous disent que ça nous plaît pas, qu'ils ont pas tous les espaces qu'ils veulent parce que c'est
promoteurs,
pas adapté.
Les promoteurs généralement ils restent dans des formats tout finis avec un prix, une surface
pour répondre à Fatou. Et on voit les plans des promotions immobilières à Abidjan où vous avez des rues à l'intérieur des promotions qui font à peine 2 mètres pour exagérer. Ouais. On peut se dire bonjour de maison à maison, on peut pas garer de voiture, il y a pas de trottoir dans les promotions immobilières, il y a pas d'arbres pour pouvoir rafraîchir l'environnement, parce que c'est ça aussi le défi de demain, c'est qu'on puisse planter. Et de nos jours à Abidjan, avec les pouvoirs publics comme complices, je vais dire, on rase quand on veut construire, on rase, on coupe les arbres dans les avenues les plus prestigieuses. Et ben voilà.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, les architectes africains, d'avoir une place dans la conception des villes du continent? Vous nous disiez, on nous consulte après coup, mais également sur les grands projets qui sont financés par l'argent du monde.
On n'a pas on n'a pas vraiment de place. Certains vont dire que j'exagère un peu, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment assez de place.
On peut prendre des exemples là, sur les grands projets à venir à
Abidjan. On a vu sur les grands projets à venir à Abidjan, la baie de Cocody, où on a de l'argent qui vient de l'étranger.
Maroc,
France, partout ailleurs, avec des architectes étrangers.
Mais qui finance le plan d'urbanisme d'Abidjan aujourd'hui?
Actuellement, qui finance? L'État? La formulation ou l'exécution du plan d'urbanisme, les dessins ont été faits par les Japonais. Après.
Et vous dans l'histoire alors.
On a eu une concertation par la suite. Après que l'Ordre des architectes se soit plaint justement d'avoir un produit fini, on a dit mais quand même nous avons des professionnels urbanistes,
vous
architectes.
Vous avez eu des très bonnes formations, vous avez des très bons diplômes les uns les autres.
Qui font
vous êtes formés en France en plus. Vous dites. Alors comment se fait-il que vous ne soyez pas consulté? Qu'est-ce que vous auriez à créer pour les villes africaines, Éric Moreau?
Oui, alors merci Emmanuel. Sur cette question de l'implication ou d'appeler des architectes sur des projets importants, nous avons évidemment une problématique en fait là-dessus du débat avec les institutionnels, les pouvoirs publics. C'est-à-dire généralement qui, quand ils ont des opérations et ils ont un mandat, généralement travaillent immédiatement et se retournent vers l'extérieur. Et véritablement ne nous consulte pas, ou premièrement ne consulte même pas les ordres que nous avons et qui sont basés et qui ont quand même également une vocation à accompagner les pouvoirs publics. Vous savez, nos ordres professionnels sont intimement liés avec l'Union internationale des architectes qui régit quand même un certain nombre
Mais là, vous nous faites un plaidoyer pour la défense de votre métier, mais vous ne défendez pas votre métier auprès des voisins qui nous écoutent, des auditeurs. Qu'est-ce que vous avez à apporter pour les villes africaines en termes d'esthétisme, de bien-être?
Vous savez, c'est une problématique, c'est une dualité qui se passe entre les populations. Vous savez, l'architecte, c'est une articulation. Les pouvoirs publics ne peuvent pas directement venir avec des projets tout finis et les imposer. C'est ce dont est en train de dire aujourd'hui Fatou, parce que ils voient un certain nombre de choses qui ne sont pas adaptées à leur environnement. Ça c'est la main du pouvoir généralement. Le rôle de l'architecte, c'est d'adapter ces choses-là avec un environnement, avec une architecture intelligente, avec des politiques évidemment qui tiennent compte. L'architecte, en gros, si vous voulez, nous sommes en conflit souvent avec tout le monde, permanent, avec le pouvoir, avec les populations, parce que nous sommes une articulation.
C'est terrible d'être architecte.
Mais oui, c'est terrible.
C'est
ça qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire là-dessus. Nous avons aujourd'hui, moi je peux dire aujourd'hui, on peut être en dissidence avec des pouvoirs en place parce qu'à un moment donné, nous ne nous entendons pas du tout et parce qu'ils veulent imposer une manière de faire. Et évidemment, quand une comme Fatou aujourd'hui constate que tout ce qui se passe aujourd'hui ne marche pas, mais c'est les pouvoirs, c'est pas les architectes. Maintenant, les architectes ont des solutions, connaissent des techniques et des technologies et connaissent les matériaux. Vous avez vu quand on est arrivé sur votre plateau, nous sommes capables de vous dire comment effectivement c'est qu'il faut mettre ici. Et ça, on sait le faire. Mais sauf que les pouvoirs, quand elles ont booké, qu'elles ont rentré de l'argent, ne veulent pas nous faire travailler et voilà le problème que
parce
nous
que
avons.
Les bailleurs de fonds imposent aussi des cabinets internationaux.
Ils viennent, ils imposent des cabinets, ils viennent avec une opération totalement finie. Et donc, dans ce cas-là, les architectes locaux, on se retrouve à être des spectateurs.
C'est quoi un projet réussi qui prenne en compte la culture africaine comme le désirait notre auditrice qui nous
a fait. Il faut des architectes africains.
Grâce à des architectes africains. Donnez-nous un exemple. Une construction réussie grâce aux architectes africains.
Mais vous savez, aujourd'hui, nous avons quand même en Afrique des aînés qui sont là, comme Goudiaby ou d'autres qui ont essayé de faire un certain nombre de choses. Au Sénégal, à Dakar, par exemple, des opérations se font au Sénégal. Je connais au Cameroun certains également architectes qui sont impliqués, et parce qu'à un moment donné, quand on commence à être écouté par les pouvoirs publics, nous voyons une transformation. Même à Abidjan, je peux vous dire que à Abidjan, dont on parle aujourd'hui, moi qui suis étranger à Abidjan, je suis émerveillé de ce qui se passe à Abidjan au niveau de la prise en compte des architectes en Côte d'Ivoire. Parce que leur ordre, parce que la problématique de la manière dont ils sont impliqués aujourd'hui vous avez transformé un quartier Yopougon,
n'allez pas trop vite parce que sinon tout Yopougon va nous appeler pour protester.
Oui, il y a une bonne réflexion là-bas qui est posée sur la ville et sur les matériaux, sur la qualité et où n'importe quelle personne peut rentrer dans une maison qui est étudiée et avec des surfaces. Et c'est ça qu'on veut.
Je voudrais qu'on donne la parole quand même au troisième architecte qui vient de nous rejoindre. Bonjour Virgin Claude Jinga Jinga.
Oui,
vous êtes un architecte
Emmanuel camerounais.
On est ravis de vous accueillir.
Merci.
Je voudrais qu'on parle de l'étalement urbain parce que les villes africaines sont des villes qui grandissent à l'horizontale, peu en hauteur, même s'il y a bien sûr aussi des buildings. C'est en gros l'un des derniers continents où finalement, je dirais, l'idéal de tout habitant, c'est d'avoir sa maison individuelle, sa cour. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous, les uns et les autres, vous habitez d'ailleurs? Vous habitez tous les trois dans des maisons individuelles ou pas? Virgin Claude Jinga Jinga, à Yaoundé, vous habitez Yaoundé. Hein,
je voulais, avant de passer à votre question, rebondir un peu sur l'intervention de mon confrère du Gabon par rapport à la participation des architectes africains dans l'authenticité de nos villes. En fait, j'ai fait une conférence le lundi sur le thème « La nouvelle architecture africaine ».
Au salon Batimat, le salon des professionnels du bâtiment.
Alliant la modernité et les principes de l'architecture primaire. Il était en fait question de démontrer qu'aujourd'hui, il y a une jeune génération d'architectes qui voit la ville autrement et qui voudrait inverser la tendance.
Comment? Donnez-moi un exemple.
Comment autrement? Je vais citer des exemples. Il y a eu des précurseurs. Goudjabi Atepa. J'ai cité dans ma conférence un architecte camerounais, Sangé Akwa, qui a conçu l'Université fédérale du Cameroun, qui est en fait une conception qui s'intègre dans le paysage. Quand vous y arrivez, vous voyez, il y a une bonne utilisation des matériaux locaux. Vous avez des allées qui sont arborées. Bref, c'est une architecture qui est écologique, qui est intégrée dans son paysage, qui a une certaine typicité.
Et jouer avec la lumière, mais pas trop, pour protéger de la chaleur, etc. Hein.
Et avoir donc une ventilation naturelle. Vous n'avez pas de la climatisation dans la mesure où en Afrique, il y a déjà ce problème d'énergie qui se pose. Là, voilà un exemple d'une architecture conçue à partir des matériaux locaux qui intègrent dans les réalités.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur l'étalement urbain des villes africaines.
Bon,
Est-ce que vous habitez tous les trois dans des maisons individuelles?
Il va commencer. Enfin, moi,
Virgin, vous êtes.
Moi, je vis pas dans une maison individuelle. Je vis dans un immeuble collectif.
D'accord. En hauteur.
En hauteur, oui, tout à fait.
Et vous, messieurs, Libreville, Abidjan?
Abidjan, dans un appartement d'un immeuble de R plus 3.
Trois étages.
Trois étages.
Plus 3, ouais, éviter de
Oui, trois étages. Trois étages.
Moi, je vis dans une villa, une petite belle propriété.
C'est ça, l'idéal de tout voisin sur le continent. On est bien d'accord.
Je vis sur un plein pied, très très bien.
Ouais. Alors, comment?
Alors, pour la problématique de l'étalement urbain, je pense que d'abord, c'est, vous savez, nous avions une, de manière très universitaire, un cours qu'on appelle la maîtrise urbaine. La maîtrise urbaine permettait, en fait, ou permet des gens de bien comprendre que, l'espace dans lequel on vit, c'est un peu comme un corps et que l'on doit maîtriser, savoir qu'on va pas faire porter un enfant un habit trop grand, alors qu'en fait, voilà. Une ville aussi, c'est un corps. Ça se pense. C'est un environnement qu'on doit définir. Et quand on a défini cette ville, il faut d'abord commencer par la définir. La définir en disant, parce qu'on connaît les statistiques, on sait à un moment donné qu'on va atteindre tel nombre de populations à telle échéance, ainsi de suite. Donc on est capable de définir les villes. Mais sauf que généralement, la problématique qu'on a et la difficulté qu'on a pour faire appliquer ces plans, c'est que souvent, c'est les planifications financières. Et après, finalement, ça ne suit plus. Et l'étalement urbain, finalement, se produit qui n'est qu'une conséquence de l'absence des pollutions.
Mais aujourd'hui, les habitants se plaignent qu'ils ont une heure de transport en commun pour venir travailler.
Mais parce qu'à
Dakar, vous avez des hordes de banlieusards qui arrivent au centre-ville pour travailler tous les matins et qui passent un temps fou dans les transports. Selon vous, alors vous n'êtes pas dans des trop grande ville encore pour le moment.
Oui, mais non, mais Libreville commence à être ça, Emmanuel. C'est-à-dire
à partir de combien de millions d'habitants, la ville à l'horizontale n'est plus tenable au quotidien pour les voisins qui habitent, les voisins et les voisines. Vous diriez quoi?
Moi, je pense que déjà à Libreville, à partir de 3 millions d'habitants, ça devient déjà une échelle assez importante à maîtriser.
Vous n'êtes pas encore, vous.
Voilà.
On est à 10 millions.
Comment?
10 millions d'habitants?
Non, Abidjan, c'est pas assez, c'est haut, on est autour de 2 millions et demi, 3 millions d'habitants.
Non, Abidjan, on est à 6.
Alors, vous diriez donc, à partir de 10 millions, l'étalement urbain n'est plus tenable, il faut absolument monter en hauteur, c'est ça?
De toute façon, sur Abidjan, on a commencé déjà à monter en hauteur. Et on va être amené de plus en plus à partir d'une ville, horizontale, pour pouvoir justement maîtriser pour pouvoir maîtriser justement ce problème de mobilité.
Mais c'est un passage obligé l'étalement, et après on revient, parce que c'est surtout un passage obligé, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'éducation des populations ou même des pouvoirs publics de comprendre comment il faut maîtriser la ville, ce que je suis en train de dire. Donc à un moment donné, on va revenir
ramasser la ville pour faire moins de temps de transport,
on va revenir avec la rationalité, parce qu'il va y avoir de la mobilité qu'il faut penser, il va y avoir des transports qu'il faut penser, il va y avoir justement des activités de travail, il faut faire du zoning. Et donc à un moment donné, la rationalité qu'on doit mettre dans la ville va revenir. Mais au début, on souffre d'abord de ça.
En fait, si je dois intervenir par rapport à l'étalement des villes africaines, en réalité, il y a un problème qui se pose. La ville africaine n'est pas le produit d'une activité industrielle en base arrière. Vous verrez, quand on est à Paris, on a la représentation d'une foule d'industries qui, même n'étant pas à Paris, permettent de générer des revenus qui donne la possibilité à la ville de pouvoir s'aménager et de pouvoir avoir des infrastructures qui permettent donc de maîtriser l'étalement de la ville. Et en Afrique, c'est le contraire. Il y a eu un exode rural qui fait que une population non qualifiée qui n'a pas une certaine
qui est venue s'installer et qui a participé
juste
à l'étalement de la ville.
Voilà, et la ville est plutôt un mirage. C'est pas un lieu où on vient avec une certaine expertise. Conséquence, avec le manque d'énergie, on ne peut pas faire des immeubles d'une certaine hauteur vu qu'il faut des l'énergie
Thierry
pour voilà.
Vous souhaitez réagir? Non.
Moi, c'est moi qui voulais réagir. Pardon. Je voulais bien dire là-dessus que, comprenons-nous bien, quand on parle de ville, on nomme quelque chose. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de sémantique. La ville est un environnement que l'on doit bien savoir qu'il se définit. On parle d'une ville, donc on lui donne une forme, on lui donne une taille, et on dit, voilà comment elle peut fonctionner.
C'est pas comme ça que ça se passe au quotidien. Malheureusement, on achète un terrain et on se débrouille avec.
Maintenant, aujourd'hui, justement, en faisant ça, on pratique mal. Et c'est souvent le problème des populations. L'absence des pouvoirs publics, c'est-à-dire aujourd'hui l'intervention de la partie institutionnelle, est souvent en retard et crée souvent justement des distorsions de ce genre où les populations se retrouvent obligées ou toutes seules à mener à devoir elles-mêmes trouver des terrains et se mettre à construire. Et l'urbanisme à ce moment-là vient après. C'est-à-dire qu'on va essayer d'interconnecter tel pavé de maison à tel endroit, à tel lieu de travail, et on se retrouve avec des choses qui sont un peu dans tous les sens. Or, on demande à ce que, pour ne pas vivre ça, parce que ça a créé l'étalement, ça va faire que les familles vivent mal. Le rôle de l'architecte, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut partir du simple. L'architecte est une articulation. L'articulation permet à ce que, je vous dis, on fait des débats avec tout le monde. On est en conflit permanent avec les pouvoirs publics, on est en conflit avec les populations qui pensent que nous jouons un jeu, et nous sommes avec nous-mêmes en train de concevoir le demain. Comment vivre mieux demain? Aujourd'hui, la problématique de la COP21 dont vous parlez. Demain, aujourd'hui, c'est la climatologie, c'est la chaleur. C'est comment on utilise le vent pour une bonne construction?
Et les matériaux.
Et les matériaux. Comment on utilise le soleil? Et comment on fait après à l'intérieur d'une maison, justement, de la domotique pour faire assister tout ça? Ainsi de suite. Mais tout le monde n'aura pas ça. Mais c'est possible. Maintenant, c'est souvent une question financière et une question d'abord de défi environnemental. Qu'est-ce que l'on veut obtenir comme environnement de ville? Et à ce moment-là, on va arriver à des villes vertes.
On parle beaucoup de l'habitat. Hein, on parle beaucoup de l'habitat, mais il y a aussi.
Mais l'habitat est intégré dans la ville.
Y a aussi l'espace public, hein, la rue, vous parliez de l'absence de trottoir. Je voudrais qu'on laisse la parole, si vous le voulez bien, à une femme architecte. C'est un métier qui a quand même longtemps été très masculin. Je sais, Thierry Dogbo, que vous êtes associé à une jeune femme architecte à Abidjan. L'architecte nigérienne Mariam Camara veut redessiner l'espace public à Niamey, son pays d'origine. Elle a 34 ans, elle vit en gros entre Seattle aux États-Unis et Niamey, et elle se demande comment faire en sorte que les femmes puissent circuler plus librement dans la capitale du Niger, sans être mal considérées dans une société qui est très conservatrice. Mariam Camara a donc inventé une sorte de circuit qui sillonnerait la ville avec plusieurs arrêts, un coin bibliothèque, un endroit pour bavarder, un lieu pour faire du sport. Ce projet est actuellement présenté à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, au centre d'architecture Arc en Rêve. Et Sébastien Gédor a rencontré Mariam Camara.
Le projet est né en fait d'un souvenir d'enfance que j'ai eu pendant que je travaillais dessus. Parce que je me suis rendu compte que notre manière en fait de trouver un espace public et de profiter de l'espace public, c'était de faire semblant d'aller quelque part. On se baladait dans le quartier pendant une heure de temps, deux heures de temps, et ça nous permettait d'avoir une certaine intimité en fait dans nos amitiés. Disons que les familles sont grandes et qu'il n'est pas facile d'avoir l'intimité, de se dire ses secrets quand on est adolescent, etc. Et donc c'était vraiment l'astuce qu'on avait trouvée. Et c'est une astuce en fait que ma mère avant moi a utilisée aussi. Je me suis dit pourquoi pas formaliser cette approche-là et en fait d'en faire un circuit qui proposerait des activités qui seraient acceptables pour surtout des jeunes filles. Parce que souvent, au Niger, quand on voit une fille, par exemple, dans un café ou un espace de ce genre, c'est souvent très mal vu.